Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bon réveil et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Imaginez, vous avez 8 ans et vous dirigez un orchestre, un vrai, ou presque. Ça donne l'été des 4 saisons de Vivaldi. Ou presque. C'est l'un des ateliers proposés par la Philharmonie des enfants qui ouvre ses portes aujourd'hui au cœur de la Philharmonie de Paris. Un espace est désormais dédié aux enfants de 4 à 10 ans. Diriger un orchestre, mais aussi produire des sons avec des casseroles, du bois, des brosses, découvrir des chants du monde entier, manipuler des instruments géants avant de jouer de la musique. On joue avec la musique. Nous serons avec la directrice de la Philharmonie des enfants, Mathilde Michel-Lambert, à 5h40. Dans l'actualité, Julien également.
Un soulagement, celui des supporters du PSG après la victoire 2-0 hier soir face à Manchester City en Ligue des Champions. On va y revenir dès le début du journal, dans moins de 2 minutes. Et puis une inquiétude, celle qu'ont tous les parents en entendant leurs enfants laisser couler l'eau pendant des heures sous la douche. Tu vas vider le ballon d'eau chaude, c'est pas Versailles ici. Autant de petites phrases que l'on a tous entendues et qui font leur grand retour avec l'explosion des prix de l'énergie. Plus 12,6%, voilà l'augmentation dès ce vendredi pour les tarifs réglementés du gaz. Alors comment limiter cette hausse sur nos factures sans pour autant se débarrasser de nos enfants? Eh bien en adoptant tout un tas de petits gestes qui, mis bout à bout, vont nous faire économiser beaucoup d'argent sans perdre nécessairement en confort. On écoutera à 6h10 les conseils d'une experte en la matière, une experte de l'ADEME, l'Agence du Développement Durable. De la culture également au menu de cette matinale avec, comme chaque mercredi, les sorties ciné de la semaine. Laurie Choleva a beaucoup aimé Eugénie Grandet, adaptation au cinéma du célèbre roman d'Honoré de Balzac qui nous attend martyrisé au collège et au lycée. Et cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Et en parlant de musique, tiens, votre partition Omblin, on va écouter une musique qui a joué en revanche pour beaucoup de monde.
Il a fait partie du groupe qui a inventé les boys bands au début des années 90 en Angleterre. Robbie Williams, au lendemain de son départ de Take That, dans la partition à 6h20.
Voilà pour une partie du programme. Installez-vous confortablement, on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour.
Alors si je me souviens bien, hier vous nous disiez que nous étions entre deux perturbations. Donc aujourd'hui, il pleut.
Très bonne déduction Julien, bravo. Fort. Mais alors attendez, il y a quand même une bonne nouvelle. Parce que là si j'arrive en vous disant à 5h il pleut, vous allez tous être démotivés. La bonne nouvelle c'est que c'est une perturbation qui va traverser le pays très rapidement. Donc on va revoir très vite le soleil. Donc ce matin, il pleut de l'Aquitaine jusqu'au nord en passant par le centre, le Nivernais et l'ouest de la Bourgogne. On a de la pluie un petit peu ce matin, de très faible intensité sur les Hauts-de-France, du côté de Dunkerque ou de Lille. Cet après-midi, la perturbation s'évacue vers l'est. Donc là, on aura quelques petites pluies, mais vraiment très légères, entre les Pyrénées et les Alpes. Mais c'est le retour du soleil dès cet après-midi par l'ouest. Les températures font un peu plus doux ce matin, 8 à 19 degrés. Cet après-midi, 16 à 20 degrés seulement au nord et jusqu'à 26 degrés dans le sud, ça baisse. Hein.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Place à l'info, votre premier journal de ce mercredi 29 septembre. Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Coup de maître du PSG et Lionel Messi au rendez-vous. Hier soir, les Parisiens se sont imposés au Parc des Princes face à Manchester City en Ligue des Champions. Victoire 2-0. On va entendre la réaction de l'Argentin après son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Yannick Jadot, officiellement investi pour représenter les Verts à la présidentielle, vainqueur d'une courte tête à la primaire écologiste face à sa rivale Sandrine Rousseau. Il dit vouloir dépasser les clivages droite-gauche. Comment compte-t-il faire? Avec quel programme? Explication dans ce journal. Explosion des prix de l'énergie, une bombe sociale à retardement. Après le coup de pouce au chèque énergie, le gouvernement planche sur de nouvelles mesures. Lisser la hausse, réduire les taxes, plusieurs options sont sur la table. Le journal de 5h vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Le Parc des Princes en feu pour la victoire du PSG hier soir en Ligue des Champions face à Manchester City. La première de l'histoire face au club anglais. 2-0 avec un but de Gueye et un autre que les supporters attendaient tous depuis son arrivée dans la capitale. Lionel Messi, un moment dont les fans se souviendront pendant très longtemps. Jean-François Pérez.
Oui, c'est un moment qui restera longtemps gravé dans la mémoire des supporters parisiens. 74e minute d'un match encore indécis. Le numéro 30, plutôt discret jusque-là, accélère sur le côté droit, repique dans l'axe, s'appuie sur Kylian Mbappé avant d'envoyer une frappe du gauche limpide dans la lucarne de City. Le but est splendide, le parc explose de joie. Un mois et demi après son arrivée, Léo Messi marque enfin sous le maillot du PSG et savoure ce moment si particulier au micro de nos confrères de Canal+.
Pour nous, c'était très important de gagner ce match. Je suis très content d'avoir marqué. Plus on va jouer ensemble et mieux ça va être. C'est une victoire importante pour nous.
Une première victoire historique face à City qui permet aux Parisiens de prendre la tête de leur groupe, couronné qui plus est d'un but du maître, le 121e de la superstar argentine en Ligue des Champions. Une réussite majeure devant l'Europe du foot face à un rival de prestige. Le qualificatif de soirée parfaite est parfois galvaudé, mais on n'en était pas loin hier soir au Parc des Princes, ou plutôt du prince, Léo Messi.
Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Et ce soir, c'est au tour de Lille de briller. Le LOSC se déplace sur la pelouse des Autrichiens de Salzbourg. Coup d'envoi 21h.
Lui, ce n'est pas la Ligue des Champions qu'il compte remporter, mais la prochaine présidentielle.
C'est ma fierté de porter les couleurs de l'écologie, mais avec un seul objectif. Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner.
C'était hier soir à la télévision. Lui, c'est Yannick Jadot, officiellement le candidat écologiste à la présidentielle de 2022, vainqueur d'une très courte tête à la primaire face à Sandrine Rousseau. 51,03% des voix. Yannick Jadot va devoir rassembler au sein de son parti, mais aussi plus largement. Avec quel programme? Les précisions avec Jacques Serret.
Pour son programme, Yannick Jadot se dit pragmatique. Ni défenseur d'une écologie décroissante, ni anticapitaliste, le candidat se définit comme le partisan d'une écologie qui dépasse le clivage droite-gauche. Concrètement, sa principale mesure serait la mise en place d'un plan de relance, 50 milliards d'euros par an, pour investir dans l'innovation, déployer les énergies renouvelables, améliorer les mobilités collectives ou encore financer la rénovation thermique des logements. En revanche, il veut stopper toute aide de l'État pour les entreprises qui sont toujours engagées dans les énergies fossiles. Yannick Jadot souhaite également une sortie du nucléaire, mais de manière responsable, dit-il, sur 15 ou 20 ans. En ce qui concerne les voitures diesel et thermiques classiques, son projet est d'interdire leur vente à partir de 2030. Autre proposition du candidat écologiste, l'interdiction de l'élevage en cage et la sortie progressive de l'élevage industriel. Le programme d'une écologie de gouvernement, selon lui.
Une écologie de gouvernement, certes, mais le temps des demi-mesures est révolu, rappelle Sandrine Rousseau, après avoir concédé sa défaite face à Yannick Jadot. Pour moi, il n'est pas la cause du vide, il est le symptôme, la charge de Nicolas Sarkozy contre Éric Zemmour. Hier soir sur Europe 1, l'ancien président de la République, invité de Punchline avec Laurence Ferrari, juge par ailleurs qu'il est encore trop tôt pour apporter son soutien à un candidat.
Impuissance, incompréhension, ce sont les mots qui résument l'état d'esprit des Maghrébins à leur arrivée en France depuis hier.
Oui, réaction à ce que nous vous révélions dès hier, la réduction drastique du nombre de visas accordés aux Algériens, Marocains et Tunisiens. Après 2 ans de négociations et de baisses progressives, Paris frappe fort et répond aux 3 pays du Maghreb qui refusent de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. Désormais, ce sera 50% de visas en moins pour les Algériens. Zoé Pallier en a rencontré quelques-uns hier soir à l'aéroport de Roissy à la sortie du vol Alger Paris.
Des visas qui arrivent au compte-gouttes, tous ici l'ont remarqué depuis plusieurs mois déjà. Le porte-parole du gouvernement le confirme et la vidéo tourne toute la journée sur des groupes WhatsApp familiaux. Brahim l'a reçu avant d'embarquer à Alger.
Il y a des relations humaines, on va dire, entre l'Algérie et la France. C'est malheureux.
L'amertume est la même de l'autre côté des portes vitrées, là où des proches attendent les embrassades. Amida est franco-algérienne venue chercher sa cousine. Elle se sent impuissante face au jeu diplomatique.
On est là depuis plus de 20 ans. Nous, on a besoin de nos familles, on a besoin de nos sœurs, on a besoin de tout le monde, quoi. Ma maman, par exemple, qu'est-ce qu'on demande? C'est pas pour qu'elle reste ici. C'est juste, au moins, elle fait des allers-retours pour qu'elle connaisse les petits-enfants.
On est tous mis dans le même panier, résume Hamza, arrivé en France à 18 ans pour travailler et rentré au pays pour les vacances.
Si c'est pour les étudiants ou si c'est, par exemple, uniquement pour les touristes qui, par la suite, vont devenir illégaux, c'est deux choses différentes. J'ai ma fiancée qui va venir ici étudier bientôt. Si c'est plus compliqué pour elle de venir, ça sera une catastrophe.
Et depuis qu'ils connaissent les causes de ce durcissement, beaucoup, ici, ont un sentiment de punition collective.
Le Maroc regrette regrette pour sa part une décision injustifiée.
Lisser la hausse des prix, réduire les taxes, voilà quelques-unes des pistes du gouvernement pour nous aider à payer nos factures d'énergie.
Oui, c'est une bombe sociale, la hausse des prix du gaz à partir de vendredi, plus 12,6%, plus 57% sur un an. Augmentation prévue en janvier aussi pour l'électricité. Et les 100 euros supplémentaires du chèque énergie ne suffiront pas à compenser. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était l'invité d'Europe 1 hier matin. Il annonçait que le gouvernement travaille sur des coups de pouce supplémentaires. Maud Descamps, vous êtes journaliste au service économie d'Europe 1. Sait-on déjà quelles pistes sont étudiées ?
Il y a plusieurs scénarios. Le premier serait de lisser la hausse des prix du gaz et de l'électricité pour éviter les variations brutales des montants des factures. C'est un mécanisme qui a déjà été utilisé l'an dernier et l'année précédente. Il permet d'étaler la hausse, notamment sur les mois d'été lorsque les prix sont moins élevés. Autre piste évoquée, diminuer la fiscalité. Aujourd'hui, les taxes représentent 30% de notre facture d'énergie. Il existe notamment une TVA sur les taxes. Une surtaxe dénoncée par plusieurs parlementaires avec qui j'ai échangé et qui estiment que sa suppression allégerait les factures des Français. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement consulte à la fois les experts de la Commission de régulation de l'énergie, mais aussi les fournisseurs comme EDF ou Engie qui ont fourni à l'exécutif des pistes de réflexion pour faire baisser la facture. En tout cas, un gros énergéticien a bien fait comprendre qu'il ne faudrait pas des mesures qui nuiraient à leur compétitivité et à la transition écologique. Les arbitrages devraient être rendus dans les tout prochains jours.
Merci Maud Descamps. Gérald Darmanin et Marlène Schiappa annoncent dans le Figaro ce matin la dissolution de 6 lieux de culte et 10 associations radicales. Le thème sera au cœur du Conseil des ministres prévu ce matin, près d'un an après le discours d'Emmanuel Macron contre le séparatisme islamiste au Mureaux.
Pour la première fois depuis le début du procès des attentats du 13 novembre, les victimes ou leurs proches ont témoigné à la barre.
Oui, pendant 7 longues heures, les parties civiles liées au Stade de France ont raconté leur soirée du 13 novembre. Mohamed Amgar était agent de sécurité. Il surveillait la billetterie de la porte H du stade. Il a été grièvement blessé.
J'ai attendu ce moment-là depuis 6 ans. Je devais libérer quelque chose qui était à l'intérieur de moi, de parler de ce que j'ai subi et voir, bien sûr, voir ces terroristes. J'étais là pour partager ma douleur et partager tout ce qu'il y a en moi avec les victimes. Le vendredi 13 novembre 2015, j'étais à la porte H. Quand je commençais à mettre les maillards de côté, j'ai entendu une première explosion qui était à peu près à 70 mètres. Je ne savais pas que c'était une bombe. Juste quelques minutes après, j'ai entendu cette explosion juste à 10 mètres, 15 mètres de moi. C'était le deuxième kamikaze qui se fait exploser. J'étais touché et blessé. Le 13 novembre 2015, je devais être décédé. Alors pour moi, chaque jour, c'est un jour. De plus, c'est un jour gagnant. C'est l'émotion qui parle. Ça m'a fait du bien. Ça m'a relâché un peu. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai relâché aujourd'hui à l'audience devant le juge.
Des propos recueillis par Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Hommage national aux Invalides rendu au caporal-chef Maxime Blasco cet après-midi à 16h30. Le militaire tué vendredi dernier en opération de reconnaissance et de harcèlement des forces djihadistes au Mali. Il est le 52e soldat tué au combat au Sahel depuis 2013.
On prend maintenant la direction de la Bretagne avec l'ouverture aujourd'hui du Dinard Festival.
La 32e édition présidée par Bérénice Bejo avec 6 films en compétition. Crise sanitaire oblige. Le festival du film britannique n'avait pas eu lieu l'année dernière. Cette année, Dinard innove pour ceux qui ne peuvent pas venir et lance le festival Scope, une plateforme de streaming pour visionner de nombreux films en ligne. Elle est accessible sur le site internet du festival à partir d'aujourd'hui. Une idée qui a tout de suite plu à la présidente Bérénice Bejo.
Évidemment que je trouve ça intéressant parce que toutes les personnes qui n'osent toujours pas sortir ou qui ne sont pas vaccinées ou qui, pour quelconque raison, ne veulent pas se retrouver dans une salle, bah c'est toujours bien de toute manière d'avoir accès au film. Ce qui est important, c'est qu'on nous raconte des histoires. Mais c'est vrai que quand on voit une histoire sur son écran d'ordinateur seul à la maison, franchement, on ne vit pas la même expérience. On passe un bon moment, c'est sûr. Mais dans une salle, on est tous ensemble, quoi, et il n'y a rien qui peut changer ça.
Bérénice Bejo, micro Europe 1 de Naïma Bencheman.
C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h10. Sur Europe 1, c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Argentan et mon pari gagnant sera le 711 Fanfaronneur. C'est un trotteur en acier trempé qui n'a besoin de personne dans un parcours pour enrouler de loin, imposer son train à ses adversaires. Et il va évoluer cet après-midi sur une piste qui correspond parfaitement bien à cette stratégie de course. Dès lors, il devrait pouvoir remporter sa 8e victoire cette année en seulement 12 tentative. Notez bien, pour cet après-midi à Argentan, réunion 1, dans la 7e course, le numéro 11, Fanfaronneur.
Merci Thierry Léger, vous revenez dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet. Vous écoutez Europe 1, bon réveil. Dans un instant, les meilleurs articles à lire ce matin dans la presse.
Oui, avec au menu ce matin, une opération à cœur ouvert, une opération à cerveau ouvert. Les origines de la musique de James Bond également, et puis des conséquences du Covid. Assez inattendues. À tout de suite.
Europe 1. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous savez, Mélanie, que depuis qu'on fait équipe, toutes les deux, je me sens différente, je sais pas. Vous avoir rencontré, ça a changé ma vie.
Bon, vous y allez un petit peu fort, Julia, je vous aime aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des rencontres qui nous marquent, qui nous bouleversent. Ce sera notre sujet, justement, dans Bienfait pour vous.
Bienfait pour vous, Mélanie Gomez et Julia Vignali.
On se posera la question, c'est quoi une bonne rencontre? Alors, à tout à l'heure, dès 11h sur Europe 1.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est 5h12, bon début de matinée, on ouvre les journaux, c'est le pressing et avec Martin Lange qui nous a rejoint. Bonjour Martin.
Bonjour Omblin, bonjour Julien,
bonjour à tous. Bonjour Martin. On jette tout d'abord un œil, comme chaque matin, sur les unes de vos journaux. 2022, le gérant vert, titre malicieusement Libération, avec pour illustration Yannick Jadot, le candidat écologiste qui a emporté hier de justesse l'investiture face à Sandrine Rousseau et qui va devoir désormais rassembler derrière son écologie de gouvernement. Jadot, la victoire en souffrant, ajoute pour sa part l'opinion. Un tout autre sujet à la une du Figaro. Chine, États-Unis, le dangereux face-à-face, titre le quotidien qui revient sur la compétition stratégique et la course aux armements entre les deux premières puissances mondiales. Et puis, merci Messi, voilà ce que l'on peut lire à la une d'aujourd'hui en France après la victoire hier soir du PSG face à Manchester City. Voilà pour les unes. Omblin, on commence avec vous.
Jouer du violon, la boîte crânienne béante, cela sonne comme le pitch d'un film d'horreur. Mais ici, l'histoire est belle, hein, et c'est Le Parisien aujourd'hui en France qui la raconte. L'histoire donc d'Adrien Tournier, un violoniste de 42 ans atteint d'une tumeur au cerveau. Il s'est fait opérer la semaine dernière au CHU de Caen, opération à cerveau ouvert, le crâne en moins, mais entre les bras, son violon. Et il joue. La technique de la chirurgie éveillée est connue, fiable, utilisée depuis plusieurs décennies lors d'interventions sur les zones du cerveau dédiées au langage ou à la vue. Et s'il y a déjà eu une intervention sur un patient qui jouait du violon en Angleterre, et bien en France, selon l'équipe de Caen, il s'agit d'une première entre les médecins et l'instrument, juste une protection en plastique translucide. Alors avant d'entendre le violon, c'est la musique nettement moins mélodieuse de la perceuse qui résonne dans la salle d'opération. Puis le musicien se met à jouer sur son violon alto un chant marin, le forban.
Et là, il est en train de se faire triturer le cerveau. Là.
Exactement, on lui appuie avec des pinces. Moment impressionnant, hein, comme on peut le voir d'ailleurs sur la vidéo disponible sur internet. Mais Adrien Tournier, lui, trouve le moyen de s'excuser de la qualité de son jeu, alors qu'il est coincé entre les machines qui font bip-bip, le cerveau à l'air, hein, je le rappelle, évidemment. Il n'est pas là pour faire une démonstration de violon, pour jouer les 4 saisons de Vivaldi. L'idée au départ, c'est d'effectuer des gestes du bras de bas en haut. Lorsque le médecin s'approche d'une zone à risque, le bras s'arrête de bouger. Donc attention, danger, c'est aussi simple que ça finalement.
Oui, c'est pour identifier les zones qu'il ne doit pas...
Voilà, exactement. Voilà. Approcher pour enlever la tumeur en toute sécurité. L'opération a duré 4 heures. Le patient, lui, n'a joué que 10 minutes hein, lorsque le médecin s'est approché de la zone à risque. Toute la tumeur a pu être enlevée et le violoniste a conservé toutes ses capacités, c'est à lire dans Aujourd'hui en France.
Merci Omblin pour cette belle histoire. Martin, quel article avez-vous retenu?
Il y a une partition ce matin, hein, promis Omblin, je n'essaie pas de vous piquer votre boulot. Est-ce que vous reconnaissez ça?
Qui s'appelle une question rhétorique.
Exactement. Le générique de James Bond a hein, une musique qui va résonner de nouveau dans les salles. Hein. Le dernier opus de la saga a été présenté hier en avant-première à Londres. Ça s'appelle Mourir peut attendre avec Daniel Craig. Hein. Ça sera la dernière fois qu'il apparaît à l'écran sous les traits de 007. Mais aussi Rami Malek dans le rôle du méchant et la française Léa Seydoux dans celui de la James Bond Girl. Le film sort en France la semaine prochaine. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à notre musique. À l'occasion de cette sortie, le compositeur à l'origine du générique, un certain Monty Norman, Bormann s'est livré sur sa création. Au début des années 60, deux producteurs viennent frapper à sa porte, Albert Broccoli et Harry Salzman. Ils lui proposent de collaborer sur un nouveau projet, un film d'agent secret. Son nom, James Bond contre Dr. No. Ça sera le premier film de la saga. Monty Norman se creuse la tête et en fouillant dans ses archives, il retrouve une chanson qu'il n'a pas utilisée pour son dernier projet, un sombre spectacle musical sur une communauté indienne des îles de Trinité et Tobago. Et en réécoutant cette chanson, il se dit qu'il tient quelque chose. Alors, les sonorités sont plus indiennes, hein, mais on reconnaît tout de suite le rythme. Le thème est là. Monty Norman retravaille le morceau, double les notes, accélère le tempo, pour finir par obtenir ce thème mythique, aussi sinistre que sexy, selon ses propres mots. La partition originale a ensuite été réarrangée par le compositeur britannique John Barry. Voilà, c'est celle qu'on entend aujourd'hui dans les derniers James Bond. Elle est plus dynamique, plus symphonique aussi, avec plus d'instruments. Mais Monty Newman reste le compositeur crédité dans tous les James Bond depuis 1962. L'histoire du célèbre thème musical de James Bond, c'est à lire dans l'édition du soir de West France.
Merci beaucoup Martin. Voilà, on réécoute.
Ah, vous préférez l'original vous.
Non mais ça m'interpelle. Je suis pas sûr que j'aurais fait le lien en écoutant cette version originale. C'est quand même étonnant. Merci beaucoup.
On a l'impression que c'est une parodie. Heureusement que vous avez dit que c'est l'original.
C'est l'original, je vous jure.
J'ai choisi pour ma part un article qui parle, messieurs, d'un engin qui nous est cher.
Tout, vous saurez tout sur le zizi, le vrai, le faux, le laid, le beau, le dur, le mou.
Vous manquez pas une occasion de parler de cet engin, cet engin qui vous est cher.
C'est très sérieux. Alors effectivement, pourquoi parler zizi ce matin à 5h18? Eh bien parce que si l'on en croit le site d'information Slate, nous sommes nombreux depuis quelques semaines à nous inquiéter des effets du vaccin contre le Covid sur nos petits choses et leurs deux orphelines.
Eh oui, qu'est-ce qui a déclenché cette panique, Julien?
Ah, c'est le zizi qui vous trouble. Eh bien, le fameux tweet de Nicki Minaj que vous nous aviez raconté d'ailleurs, Martin,
oui,
tweet dans lequel la rappeuse américaine dit ceci. Mon cousin refuse de se faire vacciner parce que son pote l'a fait et il est devenu impuissant. Ses testicules ont gonflé. Panique dans les caleçons. Alors, est-ce que le vaccin peut réellement avoir un tel effet secondaire? C'est la question qu'est allée poser la journaliste de Slate à un éminent urologue, le docteur Aaron Spitz. Sa réponse, non, pas de panique, les vaccins anti-Covid ne font pas gonfler nos bijoux de famille, ils ne provoquent aucune inflammation ni douleur dans cette zone du corps masculin. Ils ont même, au contraire, un effet bénéfique. Une étude montre que chez certains patients, le sérum provoque une augmentation du nombre de spermatozoïdes. Un petit coup de fouet temporaire et positif vu que la qualité du sperme dans les pays développés est en chute libre. Donc non, à ce jour, il n'y a aucune preuve scientifique que le vaccin nuise à l'appareil reproductif masculin. En revanche, ce qui affecte bel et bien le pénis et les testicules, c'est le Covid. Dans 5% des cas, les médecins constatent une baisse de la fertilité après une infection, moins de spermatozoïdes, plus lent et moins mobile, un impact dont on ne sait pas d'ailleurs s'il sera durable ou non. Autre effet plus répandu, chez environ 20% des hommes, une baisse de testostérone, ce qui peut avoir pour effet des problèmes d'érection et du coup une sexualité en panne. Pire, chez un tout petit pourcentage de personnes ayant contracté le Covid, on constate des inflammations et des lésions aux testicules, conséquence d'un taux de testostérone en berne, c'est ce que révèlent des chercheurs qui ont autopsié des hommes décédés du Covid. Donc au final, pour être tout à fait clair, demande la journaliste, qu'est-ce qui fait courir le plus grand risque à la santé sexuelle d'un homme? Se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner? Écoutez la réponse savoureuse de l'urologue, le plus grand risque est de ne pas se faire vacciner parce que c'est très dur de s'envoyer en l'air efficacement quand on est mort.
Toujours un plaisir.
Absolument.
Et c'est ainsi que se termine avec panache le pressing. Merci Julien et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes.
À tout à l'heure.
Pour le journal des sports, à tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi, c'est le journal permanent avec Alban Le Prince.
Il était attendu, il a répondu présent. Lionel Messi a ouvert son compteur en marquant son tout premier but sous les couleurs du PSG hier contre Manchester City en Ligue des Champions. Une victoire 2-0, ce soir c'est Lille qui va tenter de briller. Le LOSC se déplace à Salzbourg à 21h. Vainqueur d'une courte tête à la primaire écolo face à Sandrine Rousseau, on vient pour gagner, a déclaré hier soir à la télévision Yannick Jadot, officiellement officiellement candidat des Verts pour la présidentielle de 2022. Remboursement de consultations de psychologues, création de postes dans les centres médico-psychologiques. Emmanuel Macron a annoncé hier une batterie de mesures en clôture des assises de la santé mentale. Probable règlement de compte dans le Vaucluse, un homme de 22 ans tué d'une balle dans la tête hier en début de soirée à Cavaillon. Des douilles de fusil à pompe et de kalachnikov ont été retrouvées sur place par les enquêteurs. La police judiciaire d'Avignon est saisie de l'affaire.
Europe 1. Il est 5h21 et comme chaque matin, à cette heure-ci sur Europe 1, on donne la parole à celles et ceux qui s'engagent et font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France. Ce matin, Julien, une innovation pour étancher notre soif sans faire de mal à la planète.
Bonjour Sarah Bagot.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la co-créatrice de Strobon, une paille écologique et comestible. Expliquez-nous.
Alors oui, c'est une paille que nous avons créée dans le cadre de nos études d'ingénieurs avec Elsa Perbet et Anaïs Prévet. Donc c'est une paille que l'on a voulu écologique dans le sens où elle ne va pas polluer l'environnement car elle n'est pas faite en plastique ou en autres matériaux qui ne se dégradent pas. Elle est également écologique dans le sens où on peut la manger. Donc on n'a pas de déchets derrière. Elle est comestible parce qu'elle est faite à partir de deux ingrédients, donc la purée de fruits déshydratée et de la cire d'abeille que l'on vient utiliser comme enrobage.
Donc une fois qu'on a bu sa boisson, on peut vraiment la manger comme si c'était un graissin par exemple ?
Oui, exactement. On boit avec et ensuite une fois qu'on a fini sa boisson, on peut croquer ou même pendant qu'on boit sa boisson, entre deux gorgées, on peut croquer dans la paille.
C'est-à-dire qu'elle reste rigide au contact du liquide, elle n'altère pas le goût de la boisson ?
Exactement, parce que justement, il y a cette petite couche de cire d'abeille que l'on vient utiliser comme enrobage. Et on peut quand même adapter le goût de la paille à la boisson. Par exemple, si on a un jus d'orange et qu'on veut, ou un jus de pomme et qu'on fait une paille à la pomme, on peut l'avoir.
Et les fruits que vous utilisez pour fabriquer cette paille, vous les trouvez où ?
On s'est fourni sur le marché et ce qu'on aimerait à terme, c'est pouvoir produire des pailles locales avec des fruits et légumes locaux, des producteurs, et dans l'idéal, des fruits et légumes invendus. Que ce soit
ce qui rendrait le projet d'autant plus écologique et d'autant plus responsable vis-à-vis de la planète. Alors vous êtes trois dans ce projet, trois ingénieurs agronomes, très calés, on vient de l'entendre sur l'aspect technique. Mais en ce qui concerne le goût, vous êtes allé chercher des conseils ?
Ah oui, c'est renseigné d'abord autour de nos enseignants, autour des personnes compétente par rapport à ça. Et on a été amené aussi à contacter le centre de recherche d'Institut Paul Bocuse. Donc leur chef, Julien Ferretti, nous a gentiment accueillis et aidés dans l'élaboration du projet.
Comment vous est venue cette idée de créer une paille écologique sans plastique et comestible ?
Alors, dans un premier temps, faut savoir que c'était dans le cadre d'un module pédagogique que nous avions eu à l'école, donc dans lequel il fallait créer un produit alimentaire innovant. Et donc, on avait, en faisant quelques recherches, on a remarqué l'impact environnemental des pailles en plastique à usage unique sur l'environnement, du coup, et notamment les océans, avec une vidéo d'une tortue qui se fait retirer une paille du nez. Et en plus de ça, on avait aussi le contexte légal qui jouait en notre faveur avec l'interdiction de production des pailles en plastique à partir de janvier 2021 et d'utilisation de vente à partir de juin 2021, il me semble.
Et pour l'instant, vous en êtes à quel stade du développement ?
Pour l'instant, du coup, on a un procédé artisanal et on est en train de travailler sur l'industrialisation du procédé.
Donc, vous avez déposé les brevets, créé la société, il ne manque plus que les investissements, c'est ça ?
On n'a pas encore créé la société, pas encore déposé de brevets. On est en train de travailler là-dessus, justement, en ce moment. Là, on travaille vraiment sur la phase de R&D à l'étape industrielle.
Et vous recherchez des financements, des investisseurs éventuellement pour vous aider à passer cette étape cruciale ?
Oui, on est en train de rechercher des financements. Donc, tout type de financement, que ce soit investisseurs, concours, etc. On essaye de passer par toutes les portes possibles.
Et votre ambition à terme, c'est quoi ? C'est investir tout d'abord les bars et restaurants haut de gamme, branchés, avant ensuite éventuellement à toucher un plus large public ?
Alors oui, voilà, notre cœur de cible, c'est vraiment les cafés, hôtels, restaurants plutôt haut de gamme. Et après, bien sûr, on peut toujours élargir notre panel, on va dire, et entrer en production pour, par exemple, on avait l'idée d'enfants pour pouvoir leur faire appréhender l'approche avec des fruits et légumes sous forme plutôt ludique et amusante, originale. Oui, enfin, élargir, ouais.
Merci beaucoup, Sarah Bagot, de nous avoir fait découvrir cette jolie initiative, cette alternative intelligente au tout plastique. Strobon, c'est son nom, une paille écologique et donc comestible. On vous souhaite plein de réussite et à très bientôt sur Europe 1.
Merci beaucoup.
Eh bien justement, stay with us, restez avec nous.
You speak English very well, dire.
Little bit.
On est très heureux de vous avoir avec nous. Donc oui, restez, on a un joli programme à vous proposer pour la prochaine demi-heure.
Nous irons au cinéma dans un quart d'heure pour les sorties de la semaine. Laurie Chaleva a retenu deux films. Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit et Eugénie Grandet, adaptation réussie, paraît-il, du célèbre roman d'Honoré de Balzac. Et puis Omblin, la philharmonie des enfants, ça ouvre aujourd'hui.
Oui, c'est un espace de 1000 mètres carrés dédié aux 4-10 ans au cœur de la philharmonie de Paris. Des enfants invités à découvrir en totale autonomie les coulisses du son et de la musique. Ils peuvent utiliser leur voix lors d'un ping-pong sonore pour faire rebondir une balle virtuelle. C'est très rigolo. Ils peuvent s'improviser chef d'orchestre ou rocker, s'asseoir sur des pistons géants pour actionner une trompette et comprendre son fonctionnement. Il fallait quand même y penser. Visite guidée avec la directrice de la Philharmonie des enfants dans 10 minutes.
Ça promet d'être ludique. On passe à la météo. Je suis pas sûr qu'elle va être... extrêmement ludique ce matin, puisque à Nice, il y a un petit passage pluvieux au programme.
Mais voilà, mais vous, Julien, dès que vous voyez de la pluie, ça y est, vous faites la tête. Bon, si je vous dis que c'est une petite perturbation, qu'elle est de faible intensité et qu'elle va traverser la France toute la. Allez, rapidement. Demain, c'est fini.
Bon, bah,
vous êtes content, vous retrouvez le sourire.
Ça va.
Bon, bah, c'est exactement ce qui va se passer. C'est vrai qu'on a une perturbation, je vous l'avais annoncé, qui touche ce matin les régions placées entre la Gironde et le Grand Est, jusqu'aux Ardennes et même jusqu'aux Hauts-de-France. Donc ce matin, on a un petit peu de pluie d'ailleurs sur les Hauts-de-France. Et puis au fil des heures, cette perturbation, elle va s'évacuer vers l'est et vers le sud du pays. Donc entre les Pyrénées et les Alpes du Nord, en passant par la région Rhône-Alpes et le sud de l'Auvergne. Là aussi, on aura quelques petites gouttes à l'arrière de la perturbation. Donc dès cet après-midi, sur la moitié ouest du pays, c'est le retour du soleil. Attention, des petites gouttes à prévoir au nord de la Seine. Au bord de la Méditerranée, il fait très beau, il n'y a aucun nuage grâce au Mistral et à la Tramontane qui se lèvent et qui soufflent jusqu'à 70 km/h. Alors c'est côté température où il va falloir se couvrir. Ce matin, on a 8 degrés à Brest, 12 à Reims, 14 à Paris, Poitiers et Tarbes, 19 à Nice et Ajaccio, c'est doux. Mais alors cet après-midi, c'est frais. Hein. 14 à Charleville-Mézières, 15 à Lille, seulement 16 degrés à Paris, 17 à Besançon, 22 à Lyon, 26 à Nice et Marseille. Petit secret entre nous, jeudi, vendredi, va faire très beau.
Merci beaucoup Anissa Dedi, c'est une très bonne nouvelle tout ça. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, votre journal, 5h30.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Les Verts ont leur candidat pour la présidentielle. Yannick Jadot remporte de justesse la primaire écologiste devant Sandrine Rousseau. L'eurodéputé veut porter une écologie réaliste, un pragmatisme qui n'arrange pas les affaires de la gauche. Marseille s'attaque aux résidences secondaires meublées. La ville veut lutter contre l'explosion des prix de l'immobilier et le manque de logements à louer. La taxe d'habitation va passer de 20 à 60%. Un échec stratégique, notre crédibilité est endommagée. C'est l'analyse des généraux américains pour expliquer la défaite militaire en Afghanistan. Selon eux, le risque de voir Al-Qaïda ou l'État islamique reconstituer leurs forces est très réel. Et puis une journée porte ouverte pour combattre les idées reçues. Les agents de l'Office national des forêts d'Île-de-France lancent une grande opération de communication et de séduction auprès des promeneurs. Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Yannick Jadot sera donc le candidat des Verts à la présidentielle. L'eurodéputé remporte la primaire d'une courte tête face à Sandrine Rousseau. Moins de 2200 voix les séparent. Le pragmatisme l'a donc emporté sur le radicalisme et cela ne fait pas vraiment les affaires de la gauche, Jacques Seret.
Oui, dans la grande famille de la gauche, tout le monde ou presque espérait secrètement une défaite de Yannick Jadot. Beaucoup moins clivant que Sandrine Rousseau, ce profil plus rassembleur peut permettre à Yannick Jadot de grappiller des voix précieuses à chacun de ses concurrents directs. Et son spectre est large, des insoumis de Jean-Luc Mélenchon aux socialistes d'Anne Hidalgo, en passant par les défenseurs de la remontada d'Arnaud Montebourg. Aujourd'hui, la gauche est éparpillée et finalement, l'écologie est bien le thème vers lequel tous convergent. Et l'ancien directeur de campagne de Greenpeace France compte bien miser sur cette stratégie. Pas un hasard si en avril dernier, c'est lui qui était à l'initiative d'une réunion de responsables de la gauche pour tenter de s'accorder sur un candidat commun. Du côté de La République En Marche aussi, cette victoire de l'eurodéputé vert n'est pas spécialement une bonne nouvelle. Jadot et son écologie de gouvernement peut toucher la frange des macronistes particulièrement sensible aux questions d'environnement. Reste qu'après cette victoire étriquée, le candidat va tout de même devoir composer avec la radicalité des idées de Sandrine Rousseau. S'il veut ratisser large sur l'échiquier politique, Yannick Jadot est condamné à un périlleux jeu d'équilibriste.
Jacques Seret est dans les intentions de vote au premier tour. Yannick Jadot serait crédité de 6% selon l'enquête de l'Institut Harris Interactive pour le magazine Challenge.
Une enquête qui montre un resserrement à droite et une glissade de Marine Le Pen, c'est l'autre enseignement de ce sondage.
Éric Zemmour, qui ne s'est pas encore déclaré Français obtiendrait 13% et serait au coude à coude avec Xavier Bertrand, le seul à pouvoir lui contester le leadership à droite. Tous les autres candidats, les Républicains ou apparentés, se retrouveraient derrière le polémiste. Marine Le Pen continue de perdre du terrain avec 16% des intentions de vote, mais se qualifierait pour le second tour face à Emmanuel Macron.
La note s'annonce salée pour les propriétaires de résidences secondaires à Marseille. Leur taxe d'habitation va faire un bond en avant.
La ville veut lutter contre la spéculation et l'envolée des prix de l'immobilier. Depuis plusieurs mois, les investisseurs et les propriétaires de résidences secondaires ont jeté leur dévolu sur la cité phocéenne. Marseille a eu la même idée que Paris ou Lyon. Majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, elle va passer de 20 à 60%. L'objectif est clair, réintégrer les biens dans le circuit de la location classique. Reportage de notre correspondant à Marseille, Stéphane Burgat.
Une perte de rentabilité certaine pour Patricia, qui utilise sa villa près des Calanques pour des locations saisonnières.
Ça m'a fait réagir de façon assez colérique, puisque ça fait une note très salée. Il y a beaucoup d'augmentation en ce moment, avec le gaz, ça fait beaucoup de choses. Ça ne va pas me faire réfléchir, parce que financièrement parlant, c'est un besoin. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis un peu résignée et que je n'ai pas trop le choix.
Dans un contexte de baisse des recettes fiscales, la municipalité ne cherche pas à renflouer les caisses, promet l'adjoint Joël Kenkav, mais plutôt à lutter contre la multiplication galopante des locations saisonnières type Airbnb.
On attend simplement que du logement à Marseille qui est peu utilisé ou mal utilisé ou pas utilisé soit remis dans le circuit normal de la location, etc. Il y a des gens qui oublient de faire quelque chose de leur résidence secondaire et que ça peut aussi les inciter à dire bah, c'est un peu dommage de le louer que 3 semaines l'été et ça pourrait être loué à l'année et ça rendrait service à des Marseillais.
Selon l'INSEE, les résidences secondaires représentent 3% du parc immobilier local, soit un petit peu plus de 14 000 logements. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Éric Piolle renvoyé devant la justice. Le maire de Grenoble et candidat battu à la primaire des écologistes comparaîtra le 1er mars 2022 pour des soupçons de favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Il lui est reproché d'avoir attribué l'organisation d'une fête populaire à une association proche de la majorité municipale.
On part aux États-Unis où le Pentagone s'explique sur les ratés qui ont conduit à la catastrophe en Afghanistan.
Une erreur de jugement fatale, une série de mauvais choix. L'état-major de l'armée américaine s'est livré à une introspection devant le Sénat et ses conclusions sont sans appel. C'est un échec stratégique et militaire qui entame la crédibilité des États-Unis. Mais le politique a sa part de responsabilité. Selon les généraux, l'effondrement aurait pu être évité si le président Joe Biden les avait écoutés. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, deux hauts gradés assurent avoir recommandé le maintien de troupes en Afghanistan. Pourtant, Joe Biden a expliqué que personne au Pentagone ne lui a conseillé une telle stratégie. Le général Kenneth McKenzie est le chef du commandement central.
Je recommandais le maintien de 2 500 hommes en Afghanistan. Je pensais aussi que le retrait de ces troupes conduirait à coup sûr à l'effondrement de l'armée et du gouvernement afghan.
Mais pas question pour ces généraux d'accabler l'administration Biden. Le retrait d'août 2021 est le résultat de 20 ans de guerre. Ils assurent que la chute de l'armée afghane les a pris par surprise. Mark Milley, le chef d'état-major des armées, a même défendu la réussite des évacuations depuis l'aéroport de Kaboul.
D'un point de vue opérationnel et tactique, l'évacuation a été un succès. D'un point de vue stratégique, la guerre a été perdue. L'ennemi est à Kaboul. Donc il y a en même temps un échec stratégique et un succès tactique.
Et le général Milley a également admis qu'après 2 décennies de conflit, la reconstitution d'Al-Qaïda ou du groupe État islamique est une possibilité très réelle.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. À Perpignan, une femme de 30 ans est morte dans des circonstances dramatique. La victime est restée bloquée dans sa voiture en plein soleil avant de perdre connaissance. Elle a été ensuite admise à l'hôpital en état d'hyperthermie. Une information judiciaire a été ouverte. Son compagnon qui avait donné l'alerte a été placé sous le statut de témoin assisté.
C'est l'une des conséquences du confinement. Les Franciliens ont redécouvert les plaisirs de la promenade en forêt. Et bien pour surfer sur cette vague, l'ONF lance une opération séduction.
Et oui, l'Office national des forêts d'Île-de-France compte sur cette journée portes ouvertes pour faire découvrir les trésors de son patrimoine et le métier de ses agents. On recense 50 forêts publiques en région parisienne, 80 millions de visiteurs s'y promènent chaque année. Reportage Caroline Baudry.
On a l'impression que c'est un paysage un peu figé, immuable, comme si la forêt était naturelle. Eh bien non, c'est un vrai travail.
Et c'est depuis 40 ans celui de Michel Béal, membre de l'Office national des forêts. Dans son pull vert, il parcourt les allées de son bureau, les 1000 hectares de la forêt de Versailles.
Ce qu'on voit devant nous, c'est une jeune forêt de chênes. Juste à côté de ces chênes, regardez là-haut, c'est un frêne. Imiter la nature et hâter son œuvre. C'est une vieille formule forestière en tout cas. Pour que la forêt soit vivante, il faut qu'elle soit accompagnée.
Accompagnée, façonnée par l'homme depuis plusieurs centaines d'années ici. Il aide à la pousse naturelle des arbres, plante parfois, coupe les troncs malades ou dangereux pour les visiteurs. Ils ont aussi un rôle à jouer, bien détaillé dans la charte du promeneur.
ne pas apporter du feu en forêt, éviter les conflits d'usage. Notre usager que nous on privilégie, c'est le piéton. C'est aux cyclistes de faire attention par rapport à des animaux. Au moment du printemps, le chien doit être tenu en laisse. Les oiseaux vont avoir des nichées, les chevreuils, il y a des naissances.
Michel Béal espère distribuer le document à au moins 3000 personnes qui flâneront cet après-midi dans 26 forêts publiques du département.
Un reportage Caroline Baudry. Le football avec la Ligue des Champions, Paris réussit pour le trio magique Mbappé-Neymar-Messi. Le PSG bat Manchester City 2-0 avec un but signé Lionel Messi. Les Parisiens prennent la tête de leur groupe. La surprise est venue du Real Madrid, battu 2-1 à domicile par les Moldaves du Sheriff Tiraspol.
Décidément.
Ouais, première des vrais chefs. Première participation à la Ligue des Champions et premier exploit dont ils se souviendront sûrement longtemps. Et puis la suite ce soir, Julien, avec Lille face au RB Salzbourg à 21h et une confrontation qui vaudra le coup d'œil entre la Juventus Turin et le tenant du titre Chelsea.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. On retrouve maintenant Thierry Léger pour les courses et les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est dans la 11e étape du Grand National du Trot sur l'hippodrome d'Argentan que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, j'ai choisi le numéro 12, Firecracker, actuellement 8e au classement de ce Tour de France des trotteurs et qui trouve ici des conditions de course idéales pour remporter une nouvelle étape de ce GNT après avoir remporté celle du Croisé-la-Roche le 26 mai. On lui opposera les numéros 16, Bugsy Malone, de loin le plus riche de ce quintet, ayant engrangé plus d'1 100 000 euros de gains depuis le début de sa carrière et qui est toujours aussi performant malgré ses 10 ans. 10, B1 des Tirons, à ne surtout pas condamner sur son dernier échec en Suisse à Avenches. Lui qui auparavant avait fait preuve d'une louable régularité depuis le début de l'été. Et 3, deux ex machina, qui bien luné, a largement le niveau pour conclure dans les 5 premiers. Enfin les numéros 9, Crack Money, 4, Elis Cabéry, 5, Cristal du Lupin et 8, Badjulerie sont autant de possibilités pour terminer dans la combinaison gagnante de ce quintet. Mon pronostic, 12, 16, 10, 3, 9, 4, 5 et 8.
Et tous vos pronostics sont à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci Thierry Léger et à demain. Il est 5h40, vous restez avec nous, on va prendre la direction de la Philharmonie des Enfants qui ouvre ses portes à Paris aujourd'hui. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h40, excellent mercredi matin, bon réveil à tous. C'est l'un des lieux incontournables de la capitale pour tous les mélomanes. Un gigantesque bâtiment recouvert d'aluminium dans le parc de la Villette. Il s'agit de la Philharmonie de Paris qui renferme des grandes salles de concert, des salles symphoniques, un musée de la musique et désormais un espace dédié aux petits de 4 à 10 ans. La Philharmonie des Enfants ouvre ses portes aujourd'hui et on en parle en bline avec sa directrice Mathilde Michel-Lambert.
Bonjour Mathilde Michel-Lambert.
Bonjour Omblin Roche.
Ce nouveau lieu de 1000 mètres carrés est un terrain de jeu formidable pour les enfants qui souhaitent jouer avec la musique, une immersion dans les coulisses du son, tous les sons grâce à plusieurs espaces thématiques. Comment l'idée de cette Philharmonie des Enfants est-elle venue ?
Alors c'est une idée qui tient à cœur depuis longtemps à Laurent Bell, le directeur général de la Philharmonie de Paris. Vous savez que la Philharmonie c'est un espace complet dans lequel depuis longtemps déjà les familles sont accueillies aussi bien par des ateliers pédagogiques que par des activités de médiation, du musée ou des expositions. Il se trouvait que la demande extrêmement nombreuse, notamment pour les petits, était finalement assez mal servie puisqu'il y avait une demande qui excédait l'offre. Et que a germé l'idée d'un lieu d'accueil permanent pour les enfants, en particulier ceux de la maternelle et de l'élémentaire, qui se trouvent souvent dépourvus d'activités en lien avec la musique à Paris. Donc il y avait un espace dans le bâtiment même de la Philharmonie, un espace de 1000 mètres carrés qui était comme une dent creuse. Et à partir de 2016-2017, le projet a été envisagé de construire dans cet espace, dans cette dent creuse, un lieu d'accueil permanent pour les plus petits.
Donc, comment répondre à cette demande hein, donc, qui était forte, hein, vous le disiez. Comment avez-vous conçu ce lieu ?
Le travail a duré plusieurs années, puisque dès début 2018, on s'est attelé à un travail de conception des manipulables, des activités qu'on pouvait proposer, en essayant de baliser le plus largement possible les différentes notions qu'on voulait présenter en lien avec les sons, en lien avec la musique. On a fait un benchmark extrêmement important, donc un tour de l'Europe et du monde pour aller à la rencontre de lieux qui proposaient des choses analogues. Alors on en a n'a pas trouvé qui fasse exactement ça. C'est la raison pour laquelle on s'est adjoint les compétences non seulement d'experts, luthiers, chercheurs, pédagogues, etc., musiciens, mais aussi d'artistes, puisqu'on souhaitait que ce lieu soit un lieu à part, un lieu différent de ceux qui accueillent habituellement la jeunesse, un lieu plein de poésie, de surprises, et qui convoque aussi des artistes qui feraient pour les enfants des œuvres originales.
Et avec des enfants qui sont en totale liberté.
Tout à fait. Un des partis pris fondamentaux de ce projet, c'est vraiment la liberté, l'autonomie, comme ressort premier de l'apprentissage. C'est aussi la collaboration entre les enfants, des enfants qui sont aujourd'hui extrêmement connectés, très sollicités visuellement, mais assez peu à l'oreille, et qui pratiquent souvent des activités ludiques seuls, justement par la médiation des écrans. Donc le deuxième parti pris, c'est vraiment la collaboration entre les enfants. La plupart des activités se jouent à plusieurs. Le troisième parti pris qui nous semblait extrêmement important, c'est l'appel à la poésie et à l'imaginaire. Et puis, c'est évidemment la mobilisation du corps, des sensations, des sens, l'ouïe, la vue, le toucher et la mise en mouvement, de manière à ce que le corps soit premier dans l'expérience et puisse permettre d'adhérer ensuite à une connaissance.
Alors justement, pensez-vous qu'en décortiquant les sons, parce qu'il n'y a pas que de la musique, les sons, la musique, les instruments, les enfants seront plus à l'écoute?
Oui, on fait ce pari. D'ailleurs, au fronton de la Philharmonie des enfants, il y a un poème qui s'appelle « Écoute », qui est une adresse, on ne va pas dire autoritaire, mais qui appelle à faire attention à ses propres sensations, à son plaisir aussi, à son désir, à ce qu'on aime faire, à ce à quoi on aime jouer, qui permet de faire attention aussi aux autres et à la manière dont on peut jouer avec eux, et puis à mieux comprendre, à mieux saisir en fait le mystère inépuisable de la musique et à se l'approprier.
On sait que la Philharmonie de Paris est principalement dédiée à la musique symphonique, mais dans cette Philharmonie des enfants, le classique a autant sa place que le rock ou qu'un chant bouddhiste ?
Exactement. On considère que la Philharmonie des enfants, c'est aussi le lieu de toutes les musiques. C'est le lieu de tous les enfants, de 4 à 10 ans, quelle que soit leur capacité motrice, psychique, neurologique. Mais c'est aussi toutes les musiques, puisque, en effet, on est à la fois le temple de la musique symphonique, avec une installation où on dirige l'orchestre, par exemple, mais c'est aussi les esthétiques de musique actuelle, où on peut se saisir d'une guitare électrique et jouer au sein d'un club de rock, du pop, du rock, du hip-hop. C'est aussi un salon de jazz qui est dédié à plus de 100 ans de musique jazz. C'est encore une grande map monde où l'on peut écouter des expressions vocales du monde entier qui sont incarnées culturellement. Et puis on peut aussi déposer sa propre chanson, c'est-à-dire proposer sa propre création musicale qui, elle, n'appartiendra sans doute pas à un genre, mais sera bien personnelle à chacun.
Et on repart après avec un objet, avec sa création à la toute fin, si on le souhaite. Merci beaucoup Mathilde Michèle Lambert, vous êtes la directrice de la Philharmonie des enfants qui ouvre donc ses portes aujourd'hui à la Villette à Paris. Merci.
Merci beaucoup.
Il est 5h46, nous sommes mercredi, et mercredi c'est le jour des enfants, mais c'est aussi le jour des sorties ciné de la semaine.
Bonjour Laurie Choleva.
Bonjour Ombline, bonjour Julien, bonjour à tous.
Alors est-ce qu'un film se démarque cette semaine pour vous Laurie ?
Oh oui, un film découvert au dernier Festival de Cannes, Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit. Alors l'histoire se déroule dans une petite ville portuaire où de nombreux personnages, plutôt isolés, habitués à la violence aussi, et même à une existence maussade, vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art, et surtout leur quotidien transformé par l'amour.
Il est mort ?
Oui.
D'une gifle.
Si tu fermes les yeux et que tu penses à moi, tu vois quoi ? Essaye.
Je vois que je t'aime.
Elle est jolie cette musique. Mais s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'elle existe encore ?
Alors le point fort de ce film choral, c'est clairement la distribution. De Vanessa Paradis en veuve bègue qui intègre une troupe de théâtre amateur, à François Damiens qui joue le caïd local, qui écrit des poésies, en passant par Joe Star et Bully Lanners hilarant qui joue les hommes de main de François Damiens et qui intimide les ados pour leur assurer leur présence à la boum de la fille du patron, ou encore Valeria Bruni Tedeschi en femme blessée. J'en passe, il y a vraiment une galerie de personnages aussi attachants que paumés, et rien que de les énumérer, j'ai envie de les revoir. Écoutez justement Vanessa Paradis qui nous parle de son personnage.
Ce qui m'inquiétait, c'était le bégaiement, parce que c'est un bégaiement tout petit, donc c'est vraiment pas facile à faire. Mais oui, ce personnage qui est bègue et qui retrouve sa liberté en jouant la comédie parce que son bégaiement disparaît, joué en face de Gustave Kervern, qui est, c'était vraiment un coup de foudre, une rencontre, quoi. Vraiment, c'était merveilleux de jouer face à lui, et puis aussi avec Bruno Podalides, qui joue notre prof de théâtre.
Allez, on change complètement de décor, Laurie, maintenant.
Et on révise nos classiques avec la sortie d'Eugénie Grandet, adaptation du célèbre roman d'Honoré de Balzac, sorti en 1834 par Marc Duguin. Alors, c'est un roman écrit au 19e siècle, mais qui a une résonance très moderne. L'histoire, je vous la rappelle, c'est celle d'Eugénie Grandet, victime de l'avarice de son père, qui décide de ne pas la marier pour ne pas payer de dot. Eugénie Grandet va finalement s'émanciper pour ne plus jamais dépendre du bon vouloir des hommes.
Quand te déciderais-tu pour Eugénie ? Notre mauvaise fortune n'en fait pas une proie convoitée.
Il vaut mieux attendre pour viser mieux.
Sans argent, qui voudrait de moi ?
Je suis Charles Grandet, le fils de votre frère. Vous n'avez jamais quitté ces lieux ?
Parce que vous croyez qu'on m'y autorise ?
Il a fallu que vous sortiez avec mon neveu pour faire courir les rumeurs les plus folles dans son mur. Tu ne le verras plus jamais.
Un mot sur le casting, Eugénie Grandet est incarnée par Joséphine Japy, qui est éblouissante, et Olivier Gourmet incarne son père, le père Grandet.
Merci beaucoup Laurie Cheleva, on vous retrouve dans votre émission Clap samedi à partir de 14h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
L'info ne connaît pas le clap de fin, c'est le journal permanent à 5h49, l'essentiel de l'actualité avec Alban Le Prince.
Premier but sous les couleurs du PSG hier soir pour Lionel Messi, l'Argentin qui a répondu présent pour le match de Ligue des Champions contre Manchester City. Victoire de Paris 2-0 ce soir, Lille se déplace à Salzbourg, coup d'envoi 21h. On vient pour gagner Yannick Jadot dans les starting blocks hier soir à la télévision après sa victoire à la primaire écolo plus tôt dans la journée. Il est donc le candidat officiel des Verts pour la présidentielle de 2022. Paris et Londres, toujours pas d'accord à 48 heures de l'expiration de dizaines de licences de pêcheurs français. Seules 12 autorisations supplémentaires ont été accordées, loin des 87 annoncées par la France.
Europe Matin.
Que se passe-t-il au plus près de chez vous ? Qu'est-ce qui fait l'actualité dans votre département ? C'est la question que l'on se pose chaque matin dans C'est en France.
On sélectionne chaque jour un article de la presse régionale et c'est celui ou celle qui l'a écrit qui nous le raconte. Et ce matin, Julien, direction la ville de Pau.
Bonjour Nicolas Robière.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le rédacteur en chef de la République des Pyrénées où l'on découvre ce matin un article sur l'élan béarnais, l'équipe de basket dont la nouvelle direction a décidé de couper les ponts avec la légende du club, le grand Didier Gadou.
Oui, Didier Gadou, grand par la taille, hein, il fait 2m02, mais aussi par le palmarès. 6 ou 7 fois champion de France, une coupe Corach. Alors c'est dans les années 80 qu'il était joueur, 69 sélections en équipe de France de basket. Didier Gadou fêtait, figurez-vous, cette année ses 40 ans de carrière au club. Il a 56 ans, il était arrivé à 16 ans d'Orthez. Il a connu le club vraiment des années 80-90, le grand élan béarnais qui faisait rêver la France entière du basket. Il était depuis plusieurs années le directeur exécutif et là, presque en catimini, il est parti. Ça fait quelques jours, suite à une rupture conventionnelle. Il était ces dernières années directeur exécutif de l'élan. C'était le patron de l'élan. Il y avait un président, bien sûr. Et tout ça, c'est dû au rachat de l'élan par un groupe américain, Counterpoint Sport, qui est un groupe au parfum de NBA et dont le rachat du club béarnais fait beaucoup parler sur Pau et même au-delà.
C'est un départ qui se fait en catimini parce que les nouveaux propriétaires du club sont un peu gênés aux entournures.
Alors, je ne sais pas s'ils sont gênés aux entournures. Ce qui est sûr, c'est que Didier Gadou avait tenu l'élan ces dernières années, qui n'avait pas du tout les résultats de sa grande époque. Évidemment, changement de gouvernance, on passe d'un statut semi-public à un vrai statut privé, un statut totalement privé, et surtout l'arrivée d'un fonds d'investissement américain qui a racheté le club pour 800 000 euros, qui, c'est une décision qui a été prise lundi soir en conseil municipal de Pau, aura la jouissance d'un terrain de 7 hectares au nord de Pau pour un bâge et amphithéotique de 99 ans, et qui porte un projet qui fait un peu cligner des yeux à Pau, un projet immobilier à la fois sportif et immobilier de 80 millions d'euros pour relancer le club, mais aussi pour construire un hôtel de luxe à côté du Palais des Sports de Pau, et également plusieurs bâtiments et des commerces liés au sport et à la musique.
Oui, ça fait beaucoup d'argent, 80 millions d'euros pour un club de basket professionnel. Il faut rappeler que le club est passé tout près de la faillite dernièrement et il doit sa survie paradoxalement à l'arrêt de la saison au printemps 2020 à cause de la crise sanitaire.
Oui, c'est ça, parce que le club avait des difficultés à trouver des partenaires, des difficultés aussi sportives. Hein. Il avait été relégué, il était revenu en JP Elite, en Pro A d'abord et en JP Elite, et il y avait des difficultés à mobiliser autour de partenaires une table ronde financière. Et c'est vrai que pour François Bayrou, le maire de Pau, qui avait remis à la caisse, hein, la ville de Pau avait remis à la caisse pour sauver la saison précédente, il était important de trouver une solution pour l'élan. Cette solution, elle s'appelle Counterpoint, même si on va dire les contours de leur projet restent encore à définir, on va dire, ne sont pas encore précisément connus. Il s'agit en tout cas pour l'élan d'un nouveau départ.
Merci infiniment Nicolas Rebière de nous avoir fait découvrir cet article sur le départ de Didier Gadou de l'élan béarnais. Article à lire donc aujourd'hui dans la République des Pyrénées. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h57, bon réveil, on jette un coup d'œil sur la suite du programme avec cette question Julien. Comment limiter l'envolée de nos factures de gaz et d'électricité alors que les tarifs explosent?
Oui, alors dans l'absolu, il faudrait pour nombre de foyers revoir l'isolation de leur logement. Mais en attendant, on fait quoi pour éviter que le budget énergie explose? Eh bien des petits gestes qui en s'accumulant peuvent représenter de grosses économies. Par exemple, votre réfrigérateur ou votre congélateur, c'est quand la dernière fois que vous l'avez dégivré? Plus d'un an? Eh bien, à cause de la couche de givre qui s'est accumulée, il consomme jusqu'à le double de ce qu'il devrait. Voilà un conseil et bien d'autres que nous donnera dans une dizaine de minutes notre invitée Florence Clément, la coordinatrice de l'information à l'ADEME. Et puis juste après, Omblin, on écoutera évidemment votre partition.
Le bad boy de la pop anglaise, alors qu'il est au sommet avec son groupe Take That, Robbie Williams claque la porte. Le récit de ses débuts agités dans 10 minutes. Dans 20 minutes. 20 minutes.
Agité sera éventuellement la météo du jour, Anissa Haddadi. En tout cas, les températures baissent cet après-midi.
Eh oui, ça y est, on rentre dans le dur. Hein. C'est l'automne, il va falloir effectivement se couvrir cet après-midi. Alors sur la moitié nord, écoutez bien, on a 19 degrés à Strasbourg, 18 à La Rochelle, Quimper et Saint-Étienne, 17 degrés à Belfort et à Cherbourg, 16 degrés seulement pour Paris et Dunkerque, 15 petits degrés à Lille, 14 à Charleville-Mézières. Et puis, on aura seulement 13 degrés à Mouthe. Vous savez, c'est dans le Doubs et c'est la petite Sibérie, Mouthe. Donc il fera frais. Ce matin, il fait encore assez doux. Hein. On a 10 degrés à Nancy, 12 à Abbeville, 13 degrés à Albi et Laval, 14 à Paris, 15 degrés à Montélimar, 16 pour Biarritz et 19 à Perpignan. Alors sur la moitié sud, là, on a des températures bien plus agréables, comprises entre 23 et 28 degrés, 28 degrés pour Ajaccio. Dans le ciel, nous avons une nouvelle perturbation qui est arrivée cette nuit. Elle a d'abord touché le nord-ouest. Hein. Vous avez eu un peu de pluie sur la Bretagne et la Normandie. Bien, cette perturbation, elle avance très vite. Donc ce matin, c'est entre la Gironde et le Grand Est que vous allez avoir de la pluie en passant par l'Auvergne. Et puis cet après-midi, du Midi-Pyrénées aux Alpes du Nord, là aussi, quelques petites pluies éparses, hein, vraiment trois gouttes. Et puis au bord de la Méditerranée, vous avez droit à un soleil radieux grâce au Mistral et à la Tramontane qui, eux, chassent les nuages. Donc il y en a un peu pour tous les goûts avant le retour du soleil demain.
C'est une météo panachée. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon réveil à tous. C'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Pour ces rescapés, la vie s'est arrêtée ce soir du 13 novembre 2015. Au procès des attentats, 350 victimes témoignent à la barre jusqu'à fin octobre. Des blessés qui, 6 ans après, n'ont la force de rien, submergés par le traumatisme. La France limite le nombre de visas accordés au pays du Maghreb. Europe 1 vous le révélait dès hier. Un tour de vis et le risque d'une nouvelle crise diplomatique entre Paris et Alger. Et puis embarquement immédiat à bord de l'Aurora, un bateau français unique au monde. Le navire installe de gigantesques câble sous-marin à plus de 3000 mètres de profondeur. Et à 6h, le journal vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est une douloureuse procession qui a commencé hier dans l'ancien palais de justice de Paris. Début des auditions des victimes des attentats du 13 novembre 2015. Marion Dubreuil, vous suivez l'audience pour Europe 1. Et Marion, pendant 5 semaines, près de 350 personnes rescapées et proches d'endeuillés vont défiler à la barre.
Oui, comme Marilyn. Elle était au Stade de France pour un reportage avec les supporters allemands à 17 mètres précisément de la première explosion. suffisamment proche pour être blessé par un écrou, pas suffisamment pour être couché par le blast. Cet écrou, elle l'a apporté avec elle pour le montrer à la cour, mais elle veut repartir avec. Avant, j'étais enthousiaste, je n'avais peur de rien. Marilyn était en pleine reconversion dans l'humanitaire, en Afghanistan, en Syrie. La trentenaire ajoute, j'aurais pu sauver des vies, j'aimerais que les accusés l'entendent. Aujourd'hui, elle n'a plus la force de rien, incapable de travailler, incapable de vivre à Paris. Elle décrit ses symptômes, du stress post-traumatique, colérique, angoissée, épuisée, tout est parti en éclats. Je suis désolée, je suis très embrouillée dans mes propos. Le président lui répond avec bienveillance. L'important, c'est qu'on vous ait entendu. Peu importe dans quel ordre.
Le récit de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
On en vient à ce tour de vis qui risque de déclencher de vives tensions diplomatiques. Europe 1 vous le révélait dès hier, la France va réduire les visas accordés aux pays du Maghreb.
Une mesure de rétorsion contre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie qui refusent d'accueillir leurs ressortissants expulsés de notre territoire. Une décision injustifiée, a répondu Rabat. Silence, en revanche, du côté d'Alger. Patience, répond Majid Makedi. Pour ce journaliste du quotidien El Watan, les autorités algériennes se doivent de réagir.
Cette question des visas revient tout le temps sur la table des négociations à différents niveaux, soit au niveau des présidents, au niveau des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur. Donc on voit qu'il est toujours au centre des négociations. Donc il y aura certainement des grincements dedans côté algérien. Il va y avoir une réaction, on va l'attendre, elle va intervenir dans les jours à venir, dans les semaines à venir, c'est sûr. On ne sait pas quelle est la nature de cette réaction, mais il va y avoir une réaction certainement.
Majid Makedi, journaliste au quotidien El Watan, joint par Johanna Chabas pour Europe 1. Hommage national aujourd'hui au caporal-chef Maxime Blasco. Ce soldat français, père de famille, a été tué vendredi lors d'une opération au Mali. Cérémonie à 16h30 dans la cour des Invalides à Paris.
Emmanuel Macron au chevet d'un secteur psychiatrique en détresse.
Les consultations chez un psychologue seront désormais remboursées pour tous sur prescription médicale et à hauteur de 30 €. Annonce du chef de l'État en clôture des assises de la santé mentale hier. 13 millions de Français souffre de troubles psychiques, selon Santé publique France. Conséquence, entre autres, de l'épidémie de Covid et des confinements successifs.
Une autre tendance, accélérée par la crise sanitaire, les fonds de commerce peinent à trouver des acheteurs.
Des transactions en baisse de plus de 10% l'année dernière, selon une étude du cabinet Altares, spécialisée dans la vie des entreprises. 50 000 emplois disparaîtraient tous les ans, faute de repreneurs. Aurélien Fleureau.
Secteur traditionnellement le plus prolifique en transactions, l'hôtellerie-restauration a aussi été le plus touché par la crise sanitaire. Chaque année, plus de 10 000 cafés, hôtels et restaurants changent de main. Un chiffre tombé à 8 400 en 2020, symbole d'un plus bas historique, rappelle Thierry Milon, directeur des études chez Altares.
Nous avons sur l'exercice 2020 un nombre de transmissions d'affaires qui tombe à 25 320. Les années précédentes, on est aux environs de 30 000. Une chute qui est surtout portée par l'activité de restauration. Nous avons aussi les activités de commerce de détail d'habillement, frappées par la crise assez durement.
Et en ne regardant que le premier semestre 2021, c'est effectivement le commerce qui est désormais le plus impacté. Deux autres tendances fortes ont été relevées par Altares. Le vieillissement des acheteurs. Entre 2016 et maintenant, l'âge moyen est passé de 50 à 53 ans. Et puis s'il y a eu moins de ventes, cela n'a pas empêché les bonnes affaires malgré tout pour les vendeurs, puisque le prix des cessions a augmenté de près de 7% à 198 000 euros en moyenne.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
On vous propose une plongée à présent, une plongée à 3000 mètres sous les mers, là où sont déroulé de gigantesques câbles sous-marins, ceux qui permettent de transporter l'électricité produite par des éoliennes jusqu'à nos prises de courant.
Et ces câbles sont déroulés par un bateau unique au monde et il est français. Europe 1 vous propose d'embarquer à bord de ce navire qui va parcourir les océans de la planète. Embarquement immédiat avec Maud Descamps, envoyé spécial au sud de la Norvège.
Avec son imposante coque rouge et ses 150 mètres de long, l'Aurora ne passe pas inaperçue face aux maisons en bois du petit fjord d'Halden. Au centre du navire, une gigantesque bobine autour de laquelle s'enroule un câble électrique de 10 000 tonnes. C'est le poids de la tour Eiffel. Dans quelques jours, le navire lèvera l'ancre, direction la Grèce, pour installer ce câble à 3 000 mètres de profondeur. Une prouesse encore jamais réalisée. Vincent de Salle est le directeur des opérations du groupe Nexans.
Quand vous avez un câble qu'on installe à environ 3000 mètres de profondeur, évidemment le câble ne descend pas tout droit, donc il forme une espèce de ligne comme ça, un petit peu courbée, et donc pour 3000 mètres de profondeur, vous allez avoir 4,5 km de câble. Et donc si le bateau ne supporte pas ça, le bateau, globalement, il va se retrouver au fond de l'eau avec le câble. Et c'est un des gros avantages de ce bateau qui est prêt pour les projets des 20 ou 30 prochaines années.
Le secteur est en plein essor. La Commission européenne appelle à multiplier par 5 les capacités éoliennes offshore d'ici 2030 et par 25 d'ici 2050. L'Aurora, lui, affiche un carnet de commandes plein jusqu'en 2024.
Reportage signé Maud Descamps, envoyé spécial d'Europe 1 en Norvège.
Vous aurez reconnu forcément Give Peace a Chance de John Lennon. Eh bien, un enregistrement inédit du morceau a été adjugé à presque 50 000 euros hier au Danemark. C'est bien au-dessus de la valeur estimée. Cet enregistrement, il dormait sur une petite cassette audio mise en vente par une bande d'amis danois qui avaient eu la chance d'improviser un concert avec le musicien en 1970.
Jolie histoire, effectivement. Merci beaucoup.
Un beau trésor.
Roman Hockey pour ce journal.
Il est 6h06 et on passe au sport.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec Martin Lange et une victoire de prestige pour commencer.
Oui, celle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions hier soir. Hein, 2-1 contre Manchester City. Une victoire arrachée au terme d'un match de très haut niveau dans une ambiance de feu. Et surtout grâce au premier but, et quel but, de Léo Messi sous ses nouvelles couleurs.
Il va donner à Mbappé, la talonnade pour Messi, il va marquer, il a marqué, Léo Messi.
Après ses débuts discrets.
Non Messi, c'est rigolo. Hein.
Après ses débuts discrets à l'affaire de sa vraie fausse blessure, le premier but de la star argentine est un soulagement pour tout un club, à écouter l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
C'est vrai, aujourd'hui je le célèbre.
Ce n'est pas mon genre de célébrer les buts. D'habitude, ça reste plutôt à l'intérieur. Mais alors celui-là, je l'ai célébré. Pendant tant d'années, je l'ai vu en marquer plein depuis le banc d'en face. Alors pour une fois que j'étais sur le bon banc, je pouvais célébrer.
Le PSG prend la tête de son groupe devant la surprise Bruges qui est allée s'imposer à Leipzig, le prochain adversaire des Parisiens. Manchester City de son côté est troisième.
Dans les autres résultats de la soirée, Martin.
Une gigantesque surprise, les Moldaves de Tiraspol qui s'imposent à Madrid contre le Real, 2-1. Antoine Griezmann qui inscrit son premier but depuis son retour à l'Atlético. Victoire des Colchoneros 2-1 contre le Milan AC. Et puis le carton de la soirée, il est pour vous Julien, Liverpool qui écrase Porto 5-1.
La Champions League qui continue ce soir.
Oui, avec le deuxième représentant français, le champion de France Lille, qui se déplace en Autriche à Salzbourg. Après leur match nul contre Wolfsburg, les nordistes doivent engranger des points. À noter aussi ce soir un alléchant Manchester United-Villarreal, revanche de la dernière finale de l'Europa League. Et puis le choc, la Juventus de Turin accueille le champion d'Europe en titre Chelsea, qui devra se passer de N'Golo Kanté. L'international français a été testé positif au Covid hier.
En bref, pour finir, Martin.
Ligue des champions toujours, mais de handball cette fois, le PSG se déplace à Flensbourg en Allemagne, et puis un exploit pour conclure en alpinisme. Le Français Vadim Druel, 19 ans, devient le plus jeune à gravir un sommet de plus de 8000 mètres. Hier, il est venu à bout du Manaslu au Népal, 8163 mètres exactement.
Merci, c'était le journal des sports, signé Martin Lange.
6h09 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. Cette question, comment faire en sorte que nos factures de gaz et d'électricité n'explosent pas cet hiver alors que les tarifs, eux, sont en train de s'envoler? Quel petit geste à adopter pour soulager notre budget énergie? Les conseils à suivre d'une experte de l'ADEME. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Il est 6h12, bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et c'est une question que l'on se pose tous avec la flambée des prix de l'énergie. Comment limiter l'envolée de nos factures? Eh bien, on voit cela, Julien, avec Florence Clément, la coordinatrice du pôle public et jeune à l'ADEME, l'agence de la transition écologique.
Bonjour Florence Clément.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle juste un chiffre avant de commencer. Plus 12,6%, ce sera la nouvelle hausse vendredi des tarifs réglementés du gaz. Ceux de l'électricité devraient aussi fortement augmenter en début d'année prochaine. Les factures vont donc flamber cet hiver, d'où ma question. Quels sont les gestes efficaces pour réduire tout de suite notre consommation d'énergie? Commençons, si vous le voulez bien, par le chauffage.
Alors, pour le chauffage, vous avez certainement déjà entendu parler du conseil de régler la température, de ne pas laisser toutes les pièces à la même température. Bon, en moyenne de logement, il est bon qu'il soit chauffé plutôt autour de 19 degrés. Ça ne veut pas dire que toutes les pièces doivent être chauffées à 19, mais que, en fait, les pièces où on ne vit pas c'est-à-dire la chambre dans la journée, la salle de bain quand on a fini de l'utiliser, ne doivent pas rester à des températures de confort. On peut baisser la température de chauffage et ça permet de faire des économies d'énergie. Par exemple, en baissant la température de 1 degré, eh bien, on gagne 7% sur les économies d'énergie. Donc, c'est quand même intéressant.
Et ces températures, il est plus intéressant de les conserver en permanence ou il est préférable d'éteindre les radiateurs quand on part et de les rallumer quand on rentre à la maison ?
Alors, plutôt que de faire ce travail sur les radiateurs, de les éteindre et de les rallumer, en fait, ce qui est plutôt conseillé, c'est d'équiper son logement d'une programmation qui va permettre de mettre le logement en situation de confort, par exemple, de remonter un peu la température une heure avant que vous rentriez à la maison, de manière à vous retrouver dans un logement confortable dès votre retour à la maison, mais de prévoir, par exemple, si vous partez tous les matins à la même heure au travail et que les enfants vont à l'école, eh bien, la programmation, elle se fait tous les jours. Vous vous retrouvez dans un logement en fait, qui répond réellement à vos besoins. Et une régulation de programmation, c'est pas très cher à installer. Donc ça vaut vraiment le coup de s'en soucier plutôt que de tout faire tous les jours à la main.
Déplaçons-nous maintenant dans la salle de bain. Est-ce que baisser la température de son chauffe-eau de quelques degrés, ça peut avoir un impact ?
Oui, vous allez pouvoir économiser un petit peu sur le chauffage de l'eau si vous gardez en fait la température de votre chauffe-eau entre 55 et 60 degrés. Il n'y a pas besoin de chauffer beaucoup plus fort que ça l'eau. 50-60 degrés, c'est suffisant en fait pour limiter le développement des bactéries pathogènes et ça évite aussi un entartrage trop rapide de l'appareil de chauffage de l'eau. Et puis, faut aussi essayer de limiter la quantité d'eau chaude que vous allez utiliser. Donc, par exemple, dans les douches ou dans les douchettes, vous pouvez installer un réducteur de débit d'eau comme sur les robinets. Ça permet de faire mousser l'eau, l'air se mélange à l'eau, ça vous offre un bon niveau de confort quand vous êtes sous la douche, comme quand vous vous lavez les mains et vous limitez la consommation d'eau chaude.
Entendu, merci pour ces conseils. Concernant maintenant les appareils électriques qui bien souvent restent en veille toute la journée, c'est négligeable ou il est intéressant de tout éteindre quand on n'est pas là ?
Vous pouvez en effet éteindre certains appareils en veille, surtout ceux qui sont difficiles à éteindre. Aujourd'hui, par exemple, un téléviseur, c'est difficile à éteindre, il vaut mieux le mettre sur une prise à interrupteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, on a 15 à 20 équipements par foyer qui sont dotés de veille et qu'on considère que ça peut consommer jusqu'à 80€ d'électricité par an. Donc, éteindre les veilles, c'est quand même une possibilité d'économie.
Enfin, dans la cuisine, je pense à l'appareil qui est le plus massif, le plus gros et peut-être celui qui consomme d'ailleurs le plus, le réfrigérateur. On ajuste sa température ?
Alors, pour les réfrigérateurs, vous pouvez ajuster la température, mais surtout, en fait, pensez à l'écarter un petit peu du mur. Le système, en fait, qui permet à l'appareil de bien fonctionner, c'est une grille derrière, en fait, qui va permettre les échanges chaleur-froid. Et vous, si vous collez trop la grille au mur, en fait, cette grille, elle va surchauffer, et ça va surconsommer aussi pour l'appareil. Et puis, pensez à dégivrer aussi les appareils de froid, ça, c'est une bonne idée. Quand il y a trop de givre sur l'appareil, en fait, le froid a du mal à être libéré dans l'appareil et donc va continuer à consommer en permanence de l'électricité pour essayer de bien libérer le froid. Donc, dégivrer, éloigner le réfrigérateur du mur, voilà deux conseils. Moi, j'en ai un autre pour la cuisine et c'est surtout sur tout ce qui concerne le lavage, que ce soit le lavage du linge ou de la vaisselle. On a tendance à observer des cycles de lavage qui se multiplient. En fait, on fait fonctionner ces appareils plus souvent parce qu'on les fait fonctionner alors qu'ils ne sont pas pleins. Pour des commodités, peut-être, ou voilà, parce qu'on a aussi des lave-linges qui sont de plus en plus gros. On voit beaucoup de lave-linges de 8 kg être vendus sur le marché, mais on n'a pas toujours du linge pour faire fonctionner un appareil de 8 kg. Donc, on a tendance à les faire fonctionner alors qu'ils ne sont pas pleins. Eh bien, on augmente en fait sa consommation d'énergie. Même si les appareils aujourd'hui proposent des cycles de lavage avec des demi-charges, eh bien en fait, ils ont toujours la même consommation d'énergie pour fonctionner. Donc attention au piège de ne pas faire fonctionner trop souvent les lave-linges et lave-vaisselle alors qu'ils ne sont pas pleins.
Merci beaucoup Florence Clément pour tous ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de l'information à l'ADEME. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Il est 6h17 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. La partition de Robbie Williams. À tout de suite.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bon réveil et bienvenue sur Europe 1. Il est 6h20. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi avec vous, Alban Le Prince.
Et les supporters disent merci à Messi. L'Argentin a marqué son tout premier but sous les couleurs du PSG hier face à Manchester City en Ligue des Champions. Victoire 2-0. Lille va tenter de réaliser la même performance ce soir à Salzbourg à partir de 21h. Yannick Jadot, vainqueur d'une très courte tête à la primaire écolo face à Sandrine Rousseau, 51,03% des voix. Il représentera donc les Verts à la présidentielle de 2022. Hommage national au caporal-chef Maxime Blasco, ce sera à 16h30 aux Invalides. Le militaire mort au Mali vendredi dernier est le 52e soldat tué au combat au Sahel depuis 2013.
On termine avec votre partition, Omblin, qui s'intéresse ce matin à l'enfant terrible de la pop anglaise. Robbie Williams a réussi à se faire une place à part dans le cœur des Britanniques, et ce, malgré les scandales et les polémiques qui ont ponctué sa carrière.
Il a fait de l'impertinence un art de vivre, Julien, et c'est sans doute pour ça que nos amis Outre-Manche lui vouent un culte, et ce depuis 1990, lorsqu'il est recruté par le manager Nigel Martin Smith pour faire partie d'un groupe de garçons, les pionniers du phénomène boys band Take That. Didn't mean it. I just want you back for good. Want you back. Want you back.
Want you back. Comme le veut l'industrie musicale à ce moment-là, Take That, c'est une affaire de producteurs et de maisons de disques.
On embauche des jeunes gens, agréables à regarder, faciles à façonner. Robbie Williams, 16 ans, est le plus jeune des 5 chanteurs, le plus fougueux sans doute, peut-être le plus fragile. Il révélera plus tard avoir utilisé des antidépresseurs pour faire face à la renommée mondiale aussi soudaine que colossale.
Et plus le groupe vend des disques, plus Robbie Williams s'affirme et se voit coller l'étiquette du mauvais garçon de la bande.
Oui, voilà une personnalité qui tranche hein, avec le côté propre des autres membres, avec le succès et l'argent viennent souvent les excès. En 1995, au beau milieu de la tournée internationale de l'album Nobody Else, Robbie Williams met les voiles. On n'a jamais vraiment su exactement s'il était à l'origine de cette décision ou si ses compagnons l'avaient fortement incité à partir. Toujours est-il que le chanteur souhaite continuer sa route tout seul.
Au moment où Robbie Williams quitte le groupe, il ne sait pas encore que ce départ va lui coûter une petite fortune.
On ne brise pas un contrat aussi facilement, Julien, figurez-vous. Sa maison de disques lui demande de payer presque 2 millions d'euros. Robbie Williams vit très mal cette situation. Fatigué par ce conflit qui dure plusieurs mois, il reprend ses mauvaises habitudes.
Alors le chanteur règle la note, recouvre sa liberté et se lance dans un nouveau projet.
Tout en essayant de se défaire de ses addictions. Le premier single, Old Before I Die, remporte un joli succès d'estime. Les titres suivants passent en revanche inaperçus. Quant à l'album, premier album solo, Life Through a Lens, il se vend plutôt moyennement. Dernier atout dans sa manche, la chanson Angels. À la surprise générale, c'est l'ovation. Robbie Williams se retrouve non seulement sur le toit du Royaume-Uni, mais aussi sur celui de l'Europe. When I'm feeling weak and my pain walks down one way street, look above, and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. Angels, extrait du premier album solo de Robbie Williams, Life Through a Lens, qui est paru il y a très exactement 24 ans, le 28 septembre 1997.
Merci beaucoup, Omblin. Vous restez avec nous. Il s'installe dans ce studio. Vous allez retrouver Dimitri Pavlenko dans un instant. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 sur Europe 1 et on vous donne rendez-vous demain dès 5h.
Merci de vous être réveillé avec nous. Votre matinale se poursuit avec vous, Dimitri Pavlenko. Bonjour.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.